On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voici maintenant à l'écoute de ta parole. Merci pour cette parole précieuse qui nous enseigne chaque jour, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous exhorte, qui nous console. Seigneur, tu vois que c'est une responsabilité, aussi un privilège de pouvoir l'annoncer. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs, de prédisposer nos cœurs à entendre cette parole, qu'elle puisse s'enraciner profondément, qu'elle puisse porter du fruit. Seigneur, je te prie vraiment de ton aide pour l'annoncer. Amen. Elle était née dans une bonne famille, une famille pieuse qui avait une espérance. Elle a été élevée selon les traditions. Elle s'est mariée assez jeune. Elle partait pour une vie heureuse. Et la patatrac, ça s'effondre. Vous savez pourquoi? Elle a raté pour son mari la cuisson d'un œuf sur le plat. Véridique. Et son mari a demandé le divorce. Elle s'est retrouvée toute seule. Elle a épousé une autre personne. Mais cette personne abusait d'elle. Elle était partie pour une vie difficile, comme pas mal d'entre nous. Mais à cette époque, pour une femme, c'était encore plus terrible. Plus ça allait, plus ça se dégradait, à tel point qu'elle a commencé à se replier sur elle-même. Elle refusait la plupart des contacts sociaux. La souffrance qui était engendrée par ces échecs s'est peu à peu transformée en refus de rencontrer quiconque. Elle s'est remariée parce que son mari l'a laissée tomber, puis remariée une nouvelle fois, puis encore une nouvelle fois. Et après 5 mariages, elle s'est retrouvée de plus en plus déconsidérée et moquée. Maintenant, elle vivait avec un homme qui la prenait pour sa servante. Elle était astreinte dans le foyer, aux corvées quotidiennes, et notamment aux corvées d'eau. Une femme au cœur brisé par la vie, qui n'espère quasiment plus rien, malgré les enseignements qu'elle a reçus dans son enfance heureuse, dans sa jeunesse, et pourtant, au fond d'elle-même, elle s'accroche à quelques bribes d'espérance. Ce jour-là, une belle matinée de printemps, elle doit aller chercher de l'eau au puits à 3 kilomètres du village. Mais pour éviter tout contact humain dont elle a horreur, qui la ferait encore plus souffrir et se replier sur elle-même, elle va attendre l'heure la plus déserte de la journée, qui est aussi la plus chaude, l'heure de midi. Elle part donc sa cruche à la main, 3 kilomètres sous le soleil brûlant. Elle arrive en vue du puits, où elle doit aller puiser de l'eau. Et là, stupeur, elle aperçoit au loin une silhouette. Mince, qu'est-ce qui va se passer? Elle arrive auprès du puits, et elle voit là un homme, assis, à demi assoupi. Alors elle se dit, je vais essayer de me faufiler discrètement, aller puiser de l'eau et rentrer chez moi. Mais mince, ça ne se passe pas comme elle veut. Cet homme se lève, la regarde et prend la parole. On va ouvrir nos Bibles. Vous avez probablement reconnu le texte qu'on va prendre. Et comme ce texte, il s'agit d'un dialogue, je vais appeler Cécile, qui va venir lire avec moi. On va le faire sous une forme de dialogue. Donc Jean, chapitre 4. Cet homme prend la parole, donc. Tu préfères lire dans ma Bible? Non, tu lis sur la tienne? Super. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger, verset 7. La femme samaritaine lui dit,
« Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis femme samaritaine ?
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »
Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ?
Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit,
et que je n'ai plus à venir puiser ici.
Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit,
je n'ai pas de mari.
Jésus lui dit, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem.
Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit,
« Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. »
Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Merci Cécile, c'était super. Voilà donc la femme samaritaine, ce passage de l'évangile de Jean qui malheureusement ne rentre dans aucune catégorie de ce qu'on a étudié cette année. Vous savez que c'était un peu l'année où on a étudié les « Je suis » de Jésus, on a étudié les miracles de Jésus. Mais ça me brisait un peu le cœur de quitter l'évangile de Jean sans avoir parlé sur ce monument qu'est la femme samaritaine. C'est un texte d'une densité incroyable. On n'aura bien sûr pas le temps de tout voir. Là, j'ai limité encore. Il y a tout le passage qui suit derrière sur les disciples qui reviennent, les champs qui blanchissent pour la moisson. Mais voilà, je voudrais insister aujourd'hui sur un certain nombre de points. Et on va juste focaliser sur quelques éléments. Alors, je vais essayer de brancher. On va essayer de. J'essaie de vous mettre un petit. D'avoir un petit truc. C'est en route là. C'est bon. Alors, voilà. C'est bon. La mise à jour, on s'en fout. Voilà. La femme samaritaine. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va insister donc sur un certain nombre de points. Et je vous propose, donc, dans ce passage qu'on a lu, il y a plusieurs choses à voir. Je vais d'abord parler de 6 éléments de contexte pour bien comprendre. Ouais, excusez-moi, il y a des fautes d'orthographe, mais j'ai fait ça rapidement ce matin. Et on va voir 3 enjeux, on va citer simplement. Il y a 7 paroles de Jésus dans ce dialogue. On n'aura pas le temps de les voir en détail, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, dans l'association ACBDI là, qu'on a fondée sur l'identité en Christ, on traite beaucoup de ce passage parce que c'est très important dans la relation, comment utiliser les relations de Jésus pour progresser. Et je vais surtout insister sur 7 principes de communication. Alors je voudrais savoir parmi nous, qui est-ce qui fait aujourd'hui de la relation d'aide ? Qui fait de la relation d'aide dans l'Église ? Oui ? Une personne. Qui est-ce qui visite des malades? Qui est-ce qui visite des personnes âgées? Qui est-ce qui fait des visites dans l'église? Ok, quelques personnes. Qui est-ce qui a l'occasion d'encourager d'autres frères et sœurs en un à un dans la semaine à l'occasion? Qui est-ce qui encourage, qui a ce ministère? Ok, donc un peu plus. Hein. Qui est-ce qui a l'occasion justement d'évangéliser, de témoigner de sa foi, de faire des campagnes, de parler de sa foi à d'autres personnes? Voilà, donc les mains se lèvent un peu plus. Voilà. Mais bon, globalement, je pense que tout le monde est concerné par ce texte. 7 principes de communication de base pour faire comme Jésus, qui est le grand guérisseur des cœurs brisés. C'est vraiment ce que ce texte nous montre. Jésus est le grand guérisseur des cœurs brisés. Comment il va faire pour que cette femme, dont je vous ai raconté l'histoire, et j'ai à peine inventé, d'après le contexte juif, et notamment l'histoire de l'œuf sur le plat, c'est tout à fait vrai. Le rabbin Hillel nous dit, par exemple, que certaines femmes, vous savez, il y a la question qui se pose à Jésus, Moïse vous a dit d'envoyer une lettre de divorce quand on répudie sa femme. Il y a des femmes qui étaient répudiées parce qu'elles avaient raté un œuf sur le plat. Donc la condition de la femme était difficile à l'époque. Et voilà. Et donc cette femme arrive dans ce contexte que je vous ai raconté. On va voir comment Jésus fait quand il approche une femme comme ça, ou un homme, comment il fait pour justement entrer en relation. C'est un texte qui est énormément très très inspirant, et Jésus peut nous servir ici de modèle. Donc on verra 7 principes de communication. Et si ça passe, qu'est-ce qui se passe ? Je suis bloqué. Oh non. Ouais, c'est bon. Mince, principe 0. Bon, ça fait rien. Donc 7 principes de communication qui nous permettront d'aller plus loin. Alors, ce que je voudrais faire en préambule, un certain nombre de remarques pour bien situer le contexte. On est à Sichem. Donc Sichem, c'est la ville de Naplouse aujourd'hui, en Israël. Et c'est une ville qui, à l'époque, signifiait beaucoup pour le peuple juif, mais qui a fait l'objet de pas mal d'idolâtrie. Je vous passe tous les détails de l'histoire. On est à Samarie. Les Samaritains, ce sont les ennemis des Juifs. C'était un des anciens fiefs du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, ce sont des étrangers pour les Juifs. C'est le royaume du nord d'Israël qui a été déporté en 732 par les Assyriens. Les Assyriens ont renvoyé des populations païennes. Il y a eu un vaste mélange. Donc il y avait des traditions juives, mais il y avait beaucoup d'idolâtrie. Donc on est en terrain idolâtre à Sichem. Deuxième terrain, Jésus sait qu'ici, il y a des cœurs assoiffés de la parole de Dieu, comme partout d'ailleurs dans le monde. Puisqu'il dira à ses disciples, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Donc il y a une moisson à récolter, Jésus sait, et c'est pour ça que dans l'introduction de Jean 4, il nous est dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Donc Jésus va en Samarie de manière consciente pour répondre à ce besoin profond de cœur assoiffé. Troisième élément de contexte, les disciples n'assistent pas au dialogue. Ils sont allés chercher des courses. Donc Jésus est seul avec cette femme. Et donc c'est une révélation du Saint-Esprit à Jean. Jean, qui écrit l'Évangile, n'était pas témoin de la scène. C'est le Saint-Esprit qui lui révèle cette scène. Et c'est pour ça qu'il y a une grande, grande importance pour nous de connaître. Le Saint-Esprit a permis que ce dialogue soit rapporté, comme le dialogue d'ailleurs avec Nicodème. Les disciples n'étaient pas là. Et les deux d'ailleurs, les deux, Nicodème et cette femme d'ailleurs, ont un point commun. Je n'ai pas le temps de parler de Nicodème, mais ils ont une vision un peu erronée des choses. On verra comment Jésus les corrige. Ensuite, quatrième point de contexte, c'est la première fois où Jésus va révéler qu'il est le Messie de manière spontanée. C'est la seule fois et la première fois qu'il révèle qu'il est le Messie. Il le fera une deuxième fois sous la pression du Sanhédrin, du chef des grands prêtres, qui lui dira « Est-ce que tu es le Messie ? Dis-le-nous » lors de son procès. Mais là, c'est la seule fois qu'il va le révéler. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le mot « Messie » est utilisé autant de fois dans l'évangile de Jean que dans les autres évangiles. Je pense qu'il n'y a pas un hasard là-dessus. Voilà. Cinquième point de contexte, c'est un des premiers actes du ministère public de Jésus. Quand on regarde la chronologie, Jésus se fait baptiser, d'accord ? Saint-Esprit descend sur lui, il commence son ministère, et là, il y a très peu de choses qui se passent. Il commence par le miracle de Cana, il vient purifier le temple, il vient chasser les gens du temple à Jérusalem, il a son entretien avec Nicodème, et tout de suite après, c'est l'épisode de la femme samaritaine. Donc, c'est très précoce dans le ministère de Jésus. Il n'a pas appelé ses disciples encore. Il y a eu le premier appel, Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Voilà, quelques disciples suivent, il n'y a pas eu encore la pêche miraculeuse, Jacques et Jean n'ont pas abandonné leur filet, ils n'ont pas abandonné leur ministère de pêcheurs. On est très très précoce dans le ministère de Jésus, et il fallait qu'il passe par la Samarie. Ce petit détail du texte est très important. Il vient avec une intention. Et enfin, le dernier point de contexte, Jésus vient juste, comme je vous ai dit, d'annoncer à Nicodème le plan universel du salut. Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus vient d'annoncer à Nicodème le plan du salut. Il lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il s'est révélé comme le vrai sauveur. Pas le sauveur temporaire, pas le serpent de bronze que connaissaient les Juifs. Quand ils ont été mordus par les serpents, ils devaient lever les yeux vers le serpent de bronze, et là ils étaient sauvés. Là il se révèle comme le vrai sauveur, celui qui sauve éternellement. On l'a chanté tout à l'heure, on l'a prié, on a pris la scène pour ça. Et donc, après avoir donné la théorie, entre guillemets, à un docteur de la loi qui s'appelle Nicodème, maintenant il va démontrer en pratique ce que c'est qu'être un vrai gagneur d'âme sur le terrain. Et il va choisir un cas qui n'est pas facile. Vous avez vu le contexte de cette femme, complètement fermée, complètement sur la réserve. Et c'est un peu la séance de travaux pratiques. Il y a eu la théorie avec Nicodème. Là, on est dans les TP. D'accord ? Et on est dans le modèle, on est dans l'exemple. C'est pour ça qu'on peut vraiment être inspiré. À chaque fois qu'on va rentrer en relation avec quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a besoin d'encouragement, on a ici un modèle de comment Jésus s'y prend pour essayer d'amener cette femme, non seulement l'amener au salut, mais consoler et parler à son cœur. Alors observons ensemble comment notre maître procède et imitons-le. Il faut signaler que dans cette situation, tout est en place pour que la communication puisse échouer. Il y a vraiment tout le contexte pour que ça ne marche pas. C'est un homme, elle est une femme. À l'époque, il y avait un gap entre les deux, un grand fossé. Il est juif, elle est samaritaine. D'accord ? Ils ont peut-être, et même, attendez, il y a aussi un point important à signaler, c'est qu'elle, elle fuit la société, alors que Jésus, lui, il veut aller vers les autres. Et ça, c'est peut-être ce qui les différencie et ce qui les réunit. Mais il y a quand même une chose qui les réunit, c'est que tous les deux, ils sont peu accueillis par la société. Cette femme est rejetée dans son village. Jésus, il va être pratiquement rejeté tout le temps, à l'exception de quelques proches, quelques disciples. Donc ils ont un point commun, et on va voir comment ces grandes différences et ce point commun vont se combiner ensemble, finalement, pour produire ce monument qu'on a lu tout à l'heure. Alors je vous ai dit, il y a trois enjeux. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je vais quand même, si on peut être fermé, revenir en arrière. Voilà. Voilà. Il y a trois enjeux ici qu'il faut signaler. Le premier enjeu pour la femme samaritaine, c'est l'enjeu de la croyance. Cette femme samaritaine vit dans le passé. Elle a probablement entendu parler par ses parents qu'il y aurait un Messie. Même si elle vit dans un milieu païen, elle vit dans le passé, elle vit dans la grandeur du patriarche Jacob, elle vit dans la tradition samaritaine, elle vit dans ses croyances. Et ça, c'est intéressant pour nous aussi, parce que souvent, les gens qu'on va rencontrer dans une relation, ils vivent dans leurs croyances, ils ont leurs préjugés, ils pensent que ça va se passer comme ça. Et c'est pour ça qu'elle questionne Jésus. Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob ? Elle ne sait pas encore qui est Jésus, mais elle a Jacob comme référence. C'est très très lointain. Les croyances. Et ça, c'est des croyances qui peuvent être parfois limitantes. Et il faut savoir que les gens peuvent avoir des préjugés et des croyances qui font que la relation va se nouer difficilement. Et la tradition, la croyance, conduit souvent à l'immobilisme. C'est pour ça que cette femme, probablement depuis des semaines, des mois, des années, elle est dans son scénario, elle est dans son schéma, elle n'arrive pas à en sortir. Deuxième enjeu pour la femme, c'est de savoir qui est vraiment Jésus. Elle rencontre Jésus, mais elle ne sait pas qui elle est. Elle voit un homme, un juif, et tout l'enjeu pour elle, et tout l'enjeu pour Jésus, va être de découvrir qui est Jésus. C'est notre fil rouge dans l'étude de l'évangile de Jean, au travers des « Je suis », au travers des miracles, c'est de découvrir vraiment qui est Jésus. Voilà, je n'ai pas le temps de m'étendre plus sur cet enjeu. Le troisième enjeu, c'est comment elle va faire pour passer du faire à l'être. Alors je vous renvoie au dernier message sur le huitième « Je suis » de Jésus, où j'ai parlé de ça, Comment passer du faire à l'être? C'est le même problème pour la femme samaritaine que pour que Nicodème. C'est-à-dire, Jésus veut amener les gens sur l'être et les gens restent sur le faire. C'est-à-dire, comment passer des réalités physiques aux réalités spirituelles? Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Nicodème, il dit, ok, comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir? Voilà. Il est sur le terre-à-terre. Et Jésus veut l'emmener sur le spirituel. Et c'est ça, finalement, l'enjeu du faire à l'être. Parce que dans l'Ancien Testament, l'enseignement, pour trouver la faveur de Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire dans l'Ancien Testament? La loi, c'est-à-dire quoi? Oui, mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour se rendre propice à Dieu? Il fallait faire des sacrifices, il fallait faire, il fallait sacrifier, verser du sang, répandre, il y avait toute une tradition. Il fallait faire pour être accepté par Dieu. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben oui, il faut croire, il faut être. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'accord? Il faut être. Et Galates 2, 16 nous dit, ce n'est pas par les œuvres de la loi que les hommes sont justifiés. Donc ce n'est pas en faisant des trucs qu'on va être agréé par Dieu, qu'on va être en relation intime avec Dieu, qu'on va connaître Jésus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ce n'est pas en venant au culte que je suis en relation avec Dieu. Mais ce n'est pas le venir au culte qui va me mettre en relation avec Dieu. C'est si j'ai un cœur disposé, que je suis en Christ et que je crois à son sacrifice, c'est là que je rentre vraiment en relation avec Dieu. Donc c'est tout l'enjeu de la femme de passer du faire à l'être. Et là, donc, Jésus va s'y prendre en 7 étapes. Il y a 7 dialogues. Je n'ai pas le temps de m'étendre aujourd'hui, sinon je vais dépasser mon temps. Donc, CF, venez nous voir dans ACBDI et vous aurez les 7 étapes. Et c'est des choses qui prennent beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, il faut lever des croyances, il faut lever des préjugés. L'enjeu du faire et de l'être, les 7 paroles de Jésus. Ce que je voudrais maintenant, c'est donc vous passer plutôt aux 7 principes de communication qu'on peut appliquer chacun tous les jours lorsqu'on va rentrer en relation avec quelqu'un, particulièrement quelqu'un qui a le cœur brisé. Alors, le premier principe, je l'ai appelé principe zéro, c'est plutôt qu'est-ce que ne fait pas Jésus? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que Jésus ne fait pas? Alors, plein de choses. Souvent, en se concentrant là-dessus, on met plus en valeur ce qu'il fait. Premièrement, il ne va pas la blâmer. Elle est probablement blâmable, elle vit en concubinage, elle ne respecte pas la loi, etc., etc. Elle a dû avoir des tas de reproches là-dessus. Lui ne la blâme pas, il ne la critique pas, il ne l'insulte pas, comme probablement la plupart des villageois. Il ne la montre pas du doigt. Il ne va pas lui demander de se repentir. Il l'a demandé à d'autres personnes, mais elle, il ne va pas lui parler de repentance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas en parler, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le moment. Il ne va pas lui parler de repentance. Il ne va pas lui demander de se confesser. Il ne va pas lui demander de déballer toute sa vie dissolue. Il n'aura pas de curiosité malsaine. Il ne va pas aller pointer du doigt, tiens, qu'est-ce qui se passe chez toi, etc. Allez, raconte-moi tout, fais le psy, allonge-toi sur le divan. Il n'est pas comme ça, Jésus. Parce que ce n'est pas le moment. Il a beaucoup de tact. Il ne va pas lui annoncer l'évangile. Il l'a annoncé à Nicodème, il l'a annoncé à plein d'autres personnes, mais cette femme-là, il ne lui a pas annoncé l'évangile. Il lui a juste montré qui il était. Par son attitude, par sa posture, il lui a juste dit qu'il était celui qui pouvait étancher de manière permanente sa soif. Il n'a pas prié pour elle. Il n'a pas prié avec elle. Il n'a pas non plus occulté le péché dans lequel elle vivait. Ça, c'est important. Il n'a pas occulté le péché dans lequel elle vivait. Ça veut dire quoi, ça, pour nous? Principe zéro. Ça veut dire qu'on peut être aussi efficace dans la relation juste par notre savoir-être, par notre attitude, par la manière avec laquelle on se comporte. Jésus, par sa posture, par qui il est, par son identité, et là je vous renvoie au 7 « Je suis de Jésus », je vous renvoie au miracle de Jésus, Jésus, par son identité, est extrêmement efficace. Il arrive à ses fins, sans faire tout ce que je vous ai cité. Principe zéro. Premier principe qu'on peut retenir, Jésus accueille cette femme de manière inconditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il surmonte tous les obstacles que je vous ai cités tout à l'heure qui empêchent la conversation de se poursuivre. Il va au-delà des préjugés, des qu'en dira-t-on. Nous savons que Jésus avait beaucoup de discernement. Donc il savait toute la vie de cette femme. D'ailleurs, quand elle va lui donner une bribe de sa vie, je n'ai point de mari, il va compléter, il ne va pas occulter la réalité, mais il va le faire de manière inconditionnelle. Parce que pour Jésus, aucune situation n'est désespérée. Jésus croit que chaque être humain, même s'il est pécheur par nature, il a le potentiel pour être restauré et réhabilité. Je répète, chaque être humain a le potentiel d'être restauré et réhabilité. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à son image, et même si on a le péché en nous, on peut toujours venir à lui pour être restauré et réhabilité. Quelle que soit la situation, aussi désespérée soit-elle, Jésus a ce potentiel pour nous restaurer. Et donc, il ne va pas lui rentrer dedans en lui disant « Ouais, t'as vu comme tu es, vie dissolue, machin, allez, mets-toi à jour, repends-toi, etc. » Pas du tout. Et on peut voir comme modèle dans la Bible toutes les rencontres de Jésus. Jésus fera beaucoup d'autres rencontres. Il va rencontrer le jeune homme riche, il va rencontrer Zachée, il va rencontrer des tas de gens qui ont le cœur brisé, qui ont besoin d'être transformés. Et à chaque fois, il va adapter son attitude, il va adapter son être et sa posture. Ok, donc cet accueil inconditionnel au-delà des préjugés. Deuxième principe que je voudrais soulever, c'est l'empathie. Ça veut dire quoi, empathie ? Tout simplement, c'est se mettre à la place de l'autre. Je me pose simplement la question, qu'est-ce qu'il doit être en train de vivre ? Je le vois comme il est, qu'est-ce qu'il doit être en train de vivre ? J'essaye de me mettre dans ses chaussures. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre ? Et Jésus, même s'il discerne tout, il a vite fait d'analyser le contexte de cette femme. Je vous ai dit, elle vient puiser de l'eau, elle est très agressive au départ, elle vient sur l'heure de midi, elle a eu 5 maris. Ben voilà, vous imaginez tout le contexte, vous prenez le contexte juif et vous imaginez tout ce que cette femme a fait. Mais Jésus, comme on l'a dit, il veut la réhabiliter, il veut lui faire prendre conscience de son potentiel. Et cette femme, elle a du potentiel. La preuve, c'est que derrière, on assiste au premier véritable réveil de l'ère chrétienne. On n'a ni plus ni moins que le premier réveil de l'ère chrétienne. Il y en aura eu des milliers après, y compris les réveils qui ont lieu en ce moment. Mais le premier réveil de l'ère chrétienne, c'est la Samarie. C'est les champs qui blanchissent pour la moisson. Juste parce que Jésus, le roi des rois, comme on a dit, le seigneur des seigneurs, il a eu la posture correcte pour aller chercher une femme dont personne ne voulait, pour la réhabiliter, parce qu'il croyait dans son potentiel, cette femme créée à l'image de Dieu. Il aurait pu lui dire, et moi je me reconnais bien là-dedans, moi j'aurais pu lui dire, après la première remarque, « Hé, comment ça, toi qui es juif, tu me parles à moi ?» Il aurait pu lui dire, « Mais dis donc, tu ne me parles pas comme ça, toi tu es une femme, tu es samaritaine, tu ne me parles pas comme ça, moi je suis Jésus, hein ?» Il aurait pu lui dire ça. Il n'a pas dit ça, parce qu'il croyait en son potentiel. Troisième principe, ça c'est très important, retenez ça. Il va la mettre en position de donner. C'est-à-dire qu'il va lui donner l'occasion de montrer qu'elle est compétente et qu'elle est utile. Elle vient avec cette cruche. Elle ne sait faire qu'une chose, c'est juste puiser de l'eau. Jésus va lui demander, alors ça peut paraître abrupt, « Donne-moi de l'eau. » Est-ce que vous lui auriez dit ça ? Moi, je n'aurais pas osé. Hein. Moi, j'aurais essayé de sauver cette femme, essayer de l'aider, etc. Vous savez, vous avez des gens, ils veulent sauver les autres. Donc, sans arrêt, ils sont là à aider, à aider, à aider. Et quand vous voulez leur demander quelque chose, quand vous voulez leur donner quelque chose, ne serait-ce que leur donner de l'écoute ou de l'attention, ils refusent. Parce qu'ils ne savent pas recevoir. Et l'empathie, c'est savoir aussi recevoir des autres, les mettre en position de donner et savoir recevoir. C'est pas facile de savoir recevoir. Je connais une personne qui est très férue dans la relation d'aide, qui est connue dans la relation d'aide. Et à chaque fois que je parle avec elle, que j'essaye de prendre des nouvelles, sans arrêt elle me renvoie à moi. C'est-à-dire qu'elle refuse de me donner de ses nouvelles, de parler d'elle. C'est-à-dire qu'elle refuse de me faire un cadeau, de me dire comment ça va, comment elle se sent, quelle est sa vie, etc. Parce que c'est un cadeau pour moi de comprendre comment une personne réagit. C'est un cadeau. Quand quelqu'un ouvre son cœur et vous donne quelque chose, c'est un cadeau. Cette personne-là refuse de donner. Et donc, elle refuse de me donner des informations alors que moi, je suis prêt à l'écouter. Ça veut dire qu'elle refuse, en quelque sorte, de me donner une utilité d'écoute. Et pourtant, elle fait de la relation d'aide. Donc, vous voyez l'enjeu. Mettre une personne en position de donner, ça lui donne de la valeur. Jésus va mettre sa valeur en évidence. Il va lui permettre de se rendre utile. Il ne va pas essayer de la sauver en lui donnant plein de trucs, en lui expliquant le plan du salut, en lui disant qu'il faut qu'elle se mette à genoux, qu'elle prie trois fois le Père, etc. etc. C'est pas le but. Le but, c'est de la mettre dans une position où elle peut montrer sa compétence et son utilité. Quatrième principe, il va souligner la seule vérité, la seule réussite que cette femme va exprimer. C'est-à-dire que cette femme est extrêmement fermée, elle n'ose pas parler d'elle, elle est repliée sur elle-même, elle est agressive au début. Mais Jésus la met en position de prendre la seule vérité qu'elle va dire, « Je n'ai pas de mari ». Elle livre une petite parcelle de sa vie, et cette petite parcelle, Jésus va la prendre, va lui dire, « Oui, ce que tu m'as dit là, c'est vrai, bravo. Tu t'es ouvert de 1%, ça me suffit, je l'ai remarqué, et je t'en félicite. » Et la femme là, va ouvrir son cœur, le 1% va... Et il va là compléter son intervention. Il va lui dire, oui, oui, mais tu as raison, ce que tu as dit, c'est vrai. D'ailleurs, tu n'as pas de mari, mais tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Donc, il ne va pas occulter la vérité, comme je l'ai dit, il complète son intervention, mais d'une manière pleine de tact. Il ne va pas la critiquer. Il ne va pas critiquer le fait qu'elle tronque une partie de la vérité. Nous, par exemple, ou moi, j'aurais pu dire, ouais, mais là, d'accord, tu me dis que tu as... Mais bon, tu ne me dis pas la vérité, là, c'est une demi-vérité que tu me dis. Il ne lui dit pas ça. Il va lui dire, il va louer juste le point qu'il faut. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus fait ça ? On peut se poser la question. Moi, je pense que cette femme a une très faible estime d'elle-même. Et elle a du mal à assumer sa situation. Donc, quand quelqu'un a une faible estime de lui-même et que vous voulez lui faire dire un certain nombre de choses, ça ne sort pas. Parce que la personne à l'intérieur n'accepte pas ça. Elle n'accepte pas sa vie. Elle s'en veut, elle n'accepte pas qui elle est. Elle assume difficilement sa situation. Et donc Jésus va prendre le point positif et par ça, il va instaurer la confiance parce qu'il a beaucoup de tact. Et progressivement, ça c'est les sept paroles de Jésus, il va l'amener vers des questions plus personnelles. Il va passer du besoin d'eau vers des questions personnelles et des questions très existentielles. Je sais que le Messie doit venir. Il va l'amener à dire ça et là, ça va être l'ouverture de la porte pour l'évangélisation. Le cinquième principe, c'est que Jésus ne brutalise pas les choses. Il va respecter la vitesse de son cheminement spirituel par une série de questions et d'affirmations. Là encore, on n'a pas le temps de détailler, mais il y a beaucoup, beaucoup à apprendre sur la manière d'agir de Jésus. J'utilise souvent cette image, qui est, même avec un certain nombre de personnes moi, que j'accompagne, cette image de Jacob quand il rencontre Ésaü. On le lit dans le livre de la Genèse. Lorsqu'Ésaü et Jacob se rencontrent, Ésaü est à cheval, il dit « Viens, on va faire la fête !» Et Jacob dit « Non, je ne peux pas, là. Moi j'ai des brebis qui allaitent, si je force le pas, elles vont mourir. » Donc Jésus, il a mis exactement le bon rythme, il a pris le temps, il n'a pas critiqué, il y est allé par petites touches, il s'est repris à 7 fois pour amener cette femme. Et ça, c'est vraiment remarquable, on peut l'étudier des heures en fait. Il faut vraiment passer du temps là-dessus parce que la manière avec laquelle il fait, si vous prenez ça, si vous l'imitez, c'est extraordinaire. Donc il respecte la vitesse de cheminement. Sixième principe, il va s'appuyer sur un besoin personnel profond pour introduire une réalité spirituelle. Alors cette femme, elle a une cruche, c'est midi, il fait chaud, donc elle a soif, comme nous, comme tout le monde. D'ailleurs, lui aussi, il est fatigué, Jésus. Et là, on a un puits. Alors, ce n'est pas les puits comme on connaît maintenant. On fait un forage, machin, il y a de l'eau fraîche qui remonte, une nappe phréatique. Les puits de l'époque, ce n'était pas comme ça, c'était des trous. Il y avait de l'eau stagnante, c'est de l'eau de puits qui s'accumulait. Ça restait parfois des jours, des semaines. Et donc, c'est de l'eau stagnante. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce contexte. Quand Jésus parle d'eau vive, c'est par opposition à l'eau stagnante du puits. Et l'eau stagnante n'étant jamais la soif profonde de cette femme. C'est très important de s'appuyer sur un besoin personnel. Je n'ai pas le temps de détailler l'exemple de l'apôtre Paul, mais je vous renvoie à Acte 17, quand Paul va parler aux Athéniens. Il est à Athènes, une ville idolâtre, il y a plein de dieux. Eh bien, pour rentrer en contact avec les Athéniens, il va prendre un point des Athéniens qui leur parle. Il leur dit, voilà, j'ai vu plein d'autels chez vous, c'est super. D'ailleurs, il y en a un, il porte un nom de Dieu inconnu. Oh, c'est quoi pour vous le Dieu inconnu? Ah, les gars, ils disent, ah ouais, le Dieu inconnu, c'est quoi? Eh bien, justement, ce Dieu inconnu, moi, je suis venu vous l'annoncer. C'est vraiment remarquable en termes de communication. Il prend un appui de ce que les gens connaissent. Jésus, il fait pareil que la femme samaritaine. Elle a soif, il fait chaud, c'est midi, elle vient puiser de l'eau. Et Jésus prend l'exemple de l'eau pour l'amener plus loin dans une réalité spirituelle. Jésus, il va toujours chercher les gens là où ils sont et il va les amener plus loin. Et c'est comme ça qu'on devrait faire dans la relation d'aide. Quand on accompagne quelqu'un, quand on visite un malade, c'est le prendre là où il est et l'amener plus loin. De quoi il a besoin? Essayer de voir de quoi il a besoin. C'est un peu rapide, je suis désolé, mais il faut qu'on avance. Le septième et dernier principe de communication, eh bien, il va au-delà de la demande. Parce que parfois, les gens, quand ils ont le cœur brisé comme cette femme, ils sont dans une situation où ils demandent des choses qui ne sont pas réellement leurs besoins. Bien sûr, il y a un besoin d'eau. Mais la demande de cette femme, c'est ce fameux Messie qui remonte à une tradition lointaine. Je sais que le Messie doit venir. Elle en avait entendu parler. Et Jésus va aller au-delà de ça, au-delà de la soif, il va lui parler du Messie. Et là, il y a un point très important encore à se souvenir. Pourquoi est-ce que Jésus est capable d'être aussi attentif à ses besoins, alors qu'il est fatigué? Bien, je crois que Jésus, il a ce modèle et cet exemple rare d'être quelqu'un qui sait lui-même prendre soin de ses besoins. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne s'écoute pas dans ses besoins. Je ne dis pas qu'il faut être égocentrique, nombriliste et tourné sur soi-même. Mais parfois, savoir écouter ses besoins, ça aide à être équilibré intérieurement et ça permet d'être disponible pour écouter les besoins des autres. Je vous donne plusieurs exemples. Quand Jésus est fatigué, il se repose. Il aurait très bien pu aller avec ses disciples, chercher des vivres. Il aurait pu se dire, bah tiens, je vais les accompagner parce que mon ministère vient de commencer, il faut que je sois près de mon équipe, hein, comme quand on prend un poste. Je suis près de mon équipe, donc je fais des trucs avec eux. C'est louable. Jésus aurait pu dire, je vais avec vous chercher des courses. Mais non, Jésus était fatigué, parce que Jésus était pleinement homme. Et comme Jésus est pleinement homme, il était fatigué, il se repose au bord du puits. Parce qu'il sait que derrière, il a besoin d'énergie pour pouvoir capter les besoins des autres. Quand il traverse le lac de Galilée, dans la barque, et que la tempête fond sur le lac, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, parce qu'il est fatigué, il est comme vous et moi. Quand il y a des gens qui viennent par milliers, qui l'enseignent, c'est hyper épuisant d'enseigner. Moi, je vais rentrer tout à l'heure, je vais faire la sieste, parce que je suis épuisé, je suis vidé intérieurement, honnêtement. Donc Jésus, il dort. Quand il est angoissé dans le jardin de Gethsémané, il fait quoi? Vas-y, oui. Oui, il suit, mais il prie. Il prie. Ben, il a besoin de prier, il prie. Père, enlève cette coupe. Non, toutefois, que ma volonté, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il est angoissé, il prie. Quand il a besoin d'être en relation avec le Père Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève tôt le matin, il met le réveil, il va prier, et ses disciples cherchent, pas de problème. Jésus sait prendre soin de ses besoins, et quand on sait prendre soin de ses besoins, on peut prendre soin des besoins des autres. Sinon, on fait des tas de trucs, on est épuisé et on n'est pas à l'écoute. Jésus est à l'écoute. Il m'a dit tout ce que j'avais fait, sans aucun jugement. C'est extraordinaire, je trouve. Revenez sur ces principes-là, si vous voulez faire de la relation d'aide, si vous voulez faire de la visite, si vous voulez encourager les frères et sœurs, revenez sur les principes de Jésus, parce que c'est un modèle extraordinaire. Quel sauveur merveilleux je possède, on a chanté tout à l'heure. Alors, pour conclure, parce que c'est tard, je l'avais dit que je ferais plus court, mais bon, c'est raté encore une fois. Pourtant, j'ai zappé les trois quarts du message. Alors, en conclusion, six transformations. La posture de Jésus, les sept principes de Jésus ont produit six transformations chez la femme. Il a changé six choses chez elle. On a chanté tout à l'heure, « Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus ». Elle pourrait chanter ce chant avec nous, la Samaritaine. Six choses qui ont changé chez elle. Première chose, elle a été acceptée, accueillie, considérée pour qui elle était. Et elle a été mise à nu, elle a accepté de se mettre à nu. Il m'a dit tout ce que j'avais fait, dire à la femme. Et là, je vous renvoie à l'épître aux Hébreux, Hébreux 4, 14, qui nous dit « Aucune créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et tout est à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. » Et la phrase « celui à qui nous devons rendre compte », ça se traduit par un mot en grec, c'est le mot « logos », la parole. Tout est à nu et à découvert devant Logos. La parole met à nu. La parole de Jésus a mis cette femme à nu. Et David disait au psaume 139, « Où fuirai-je loin de ton esprit ? Où me cacherai-je loin de ta face ?» etc., etc. Donc elle a été accueillie de manière inconditionnelle. Deuxième transformation, elle est passée d'une extrême méfiance à une vérité intérieure. Et ça lui a permis de prendre confiance au point d'accepter sa situation. Elle va courir à la ville devant tous les gens qui la méprisaient et la rejetaient en disant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Ça veut dire en gros, c'est « Voilà, j'ai fait ça, mais ça c'est du passé. J'ai trouvé le Messie qui a été bon et bienveillant avec moi. Et il ne m'a pas jugé, il m'a dit tout ce que j'avais fait et il m'a dit « Je suis le Messie ». Mais c'est formidable, vous vous rendez compte, la transformation, à l'aller, elle porte sa cruche en traînant les pas sous le soleil, au retour, vroom. Un peu comme les disciples d'Emmaüs, ils s'en allaient tout tristes sur le chemin d'Emmaüs, en partant de Jérusalem, ils reviennent, le turbo, ah, on a vu le ressuscité. Ben oui, quand on a rencontré Jésus, c'est différent, on est transformé. Troisième transformation. Elle qui était délaissée, inutile, qui ne servait à rien, elle est devenue utile. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il écrit à Philémon, cette petite lettre, l'apôtre Paul, il dit, Philémon, autrefois, t'a été inutile, parce qu'il s'est enfui, mais maintenant, il m'est devenu très utile. Et vous savez ce que ça veut dire, Philémon, en grec? Le mot Philémon, ça veut dire utile. C'est extraordinaire. Donc elle est devenue Philémon, elle est devenue utile, elle sert à quelque chose, non seulement à donner de l'eau au Messie, elle ne lui a pas donné d'eau, mais par contre elle a amené l'évangile dans toute la Samarie. Quatrième transformation, elle a été capable d'étancher sa soif éternelle en s'appropriant l'eau vive. Tous les jours elle venait puiser de l'eau stagnante qui ne désaltérait pas, et là elle vient puiser de l'eau vive. Et souvenez-vous, on est très tôt dans le ministère de Jésus. Et Jésus va s'identifier à cette eau vive, il va y revenir beaucoup plus tard dans les autres signes et miracles en parlant « je suis la source, je suis l'eau vive hein. ». Et cette source deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc il permet d'étancher sa soif éternelle. Cinquième transformation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier réveil de l'ère chrétienne. Et elle va guider les autres vers Jésus. Venez voir. Et les Samaritains viennent voir, ils constatent qui est Jésus, ils découvrent qui est Jésus, et ils lui disent, c'est pas seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, c'est parce que nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. C'est extraordinaire. Et enfin, la sixième transformation, eh bien, Jésus a donné du sens à sa vie par le témoignage, elle devient utile et respectée. Elle donne du sens à sa vie. Et ça, c'est extrêmement important. Et la question que je vous pose, Est-ce que vous, vous avez un sens à votre vie? Est-ce que vous savez pourquoi vous vivez? La plupart d'entre vous avez accepté Jésus dans votre cœur. Mais est-ce que vous savez quel est le sens de votre vie? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes utile? Qu'est-ce que Jésus vous demande? Quels sont vos dons? Quels sont vos talents? Même après la rencontre avec le Messie, est-ce que vous savez quel est le sens de votre vie? Et la question que je vous laisse, c'est comment est-ce que vous allez imiter Jésus dans son exemple, dans son approche de la femme samaritaine? Parce qu'il est digne d'être imité, il est digne d'être loué. On l'a chanté, c'est celui qui a changé nos vies. Alors je voudrais pour conclure vous lire une histoire. Elle est courte, rassurez-vous, hein. Le rôti peut attendre encore un peu. Une histoire vraie qui se passe le soir d'une bataille, c'est au 19e siècle. Vous savez qu'à l'époque, c'était terrible parce que les guerres, on laissait des milliers de morts sur le champ de bataille. Et il n'y avait rien pour les soigner. Il n'y avait pas d'ONG, il n'y avait pas de tente. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 1863, je crois, c'est Henri Dunant, vous connaissez Henri Dunant, hein, c'est un Suisse qui a créé la Croix-Rouge, justement parce qu'on ne savait pas soigner les blessés. Et donc, le soir d'une bataille, un croyant parcourait le lieu du carnage, ça pourrait être à Alep, cherchant à soulager ou à consoler quelques blessés. Et là, il trouve un soldat qui n'avait que peu d'instants à vivre. Alors, il lui demande, est-ce que vous voulez que je vous lise un passage de l'Évangile? Donc, ce croyant avait envie de témoigner. Et pour toute réponse, le mourant murmura en gémissant, « J'ai soif. Est-ce que vous pouvez me donner à boire ?» Aussitôt, le serviteur de Dieu courut vers un ruisseau et en rapporta de l'eau. Après s'être désaltéré, le soldat lui dit « J'aimerais tant avoir quelque chose sous ma tête. J'ai mal. » N'ayant rien d'autre sous la main, le croyant ôta son propre manteau, le roula en forme d'oreiller et le plaça doucement sous la tête de l'agonisant. « J'ai bien froid, » dit encore le pauvre soldat. Le croyant enlève sa veste et l'étend sur les jambes du blessé. Le soldat, rassemblant ses dernières forces, lui dit « Maintenant, si c'est votre livre qui fait les hommes comme vous, alors ouvrez-le et lisez-moi jusqu'à ce que je meure. »